Hey, avant que l'épisode commence, je voudrais juste te parler d'un petit truc. Je viens de passer quelques jours à créer un guide PDF pour t'aider à bien démarrer dans l'illustration. Que tu sois autodidacte, salarié, en train de réfléchir à te lancer dans l'illustration ou à peine lancé, tu vas découvrir les 4 étapes à suivre pour littéralement démarrer ta carrière dans l'illustration. Pour le trouver, rends-toi simplement sur elodie-illustration avec un s.net slash start-illustration. Mets ce podcast sans pause. Elodie-illustration avec un s.net slash start-illustration. Dans ce guide, tu vas découvrir mes conseils qui vont te permettre de te lancer et peut-être même de surmonter le syndrome de l'imposteur. Sincèrement, ce guide s'adresse à tous les créatifs passionnés qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour franchir le cap. Ta future vie dans l'illustration t'attend, alors rends-toi vite sur elodie-illustration avec un s.net slash start-illustration. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Elodie et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode qui pourrait vous intéresser si vous êtes sur le point de vous lancer dans l'illustration, à savoir comment faire la transition entre ton boulot et le métier d'illustrateur. Mais avant ça, je voulais vous parler de quelque chose que je viens juste de mettre en place. Si vous avez des recommandations ou des suggestions à me faire pour ce podcast, vous pouvez maintenant me laisser un message vocal sur la page du podcast elodie-illustration-podcast. Vous scrollez vers le bas et vous trouverez un petit outil pour enregistrer votre message. Vous pouvez aussi m'envoyer une question par exemple que je pourrais passer lors d'un prochain épisode. J'ai piqué l'idée sur d'autres podcasts, j'avoue, et j'aime bien l'idée de vous faire participer, donc j'espère que l'idée vous plaira aussi. Je vous redonne l'adresse, c'est elodie-illustration-podcast. Alors revenons à notre épisode du jour. Alors aujourd'hui, donc comme je vous disais, on va aborder le fait de faire la transition entre le boulot, un boulot par exemple en CDI ou même en CDD, un boulot qui est plutôt sécurisant par rapport au métier d'illustrateur sur le papier. Alors mon but aujourd'hui, ça va être de vous donner les étapes à suivre pour vous permettre de faire la transition de la façon la plus sereine possible. Parce que c'est vrai que clairement, quitter un job qui vous apporte une certaine sécurité, une certaine stabilité dans vos revenus, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire à la légère et c'est pas ce que je vais vous conseiller aujourd'hui. Mais le but c'est pas non plus d'y réfléchir pendant des années, peser le pour et le contre et finalement rester bloqué, tétanisé et ne jamais franchir le pas. Donc moi je vais vous montrer comment être dans l'action et effectuer certaines choses que vous pouvez faire dès maintenant et qui vont vous permettre de donner un certain élan et vous donner de l'énergie suffisante pour passer les différentes étapes les unes après les autres en douceur. Alors concrètement de quoi on va parler dans cet épisode ? Comme vous le savez, si vous me suivez sur mon blog ou sur ma newsletter, généralement quand je donne des conseils, j'aime bien que ça soit sous forme de checklist, sous forme d'étapes à suivre les unes après les autres, comme une recette de cuisine. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés pour vous aider à quitter votre job et vous lancer sereinement dans l'illustration. Et dans les notes, je vous mettrai un petit récapitulatif par un moment clé. Comme ça, s'il y a des étapes qui vous intéressent pas, vous pourrez aller directement au moment qui vous intéresse dans l'épisode. Alors la première étape, ça va être de faire le bilan de votre situation. La deuxième étape, ça va être de faire des petits pas que vous pouvez faire dès maintenant pour rendre les choses plus concrètes. La troisième étape, ça va être de trouver votre style et commencer à développer votre portfolio. La quatrième étape, ça va être de développer son mental. C'est peut-être quelque chose qui paraît pas si évident que ça tout de suite, mais vous allez voir que c'est très important aussi. Et enfin, la cinquième étape, ça va être de s'entourer d'une communauté pour avancer. Alors pourquoi c'est important de bien se préparer à faire la transition entre votre boulot et le métier d'illustrateur ? Alors de nos jours, c'est vrai que de quitter un boulot plutôt stable, plutôt sécurisant, pour se lancer finalement dans une situation qui aux yeux des gens paraît souvent précaire, c'est vrai que ça peut paraître un peu inconscient. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes rêveraient d'avoir une situation stable, d'avoir un CDI, et ça se comprend. Mais si vous restez dans une situation qui ne vous correspond pas aux dépens de votre bonheur et de votre épanouissement personnel et de votre liberté, au final, il faut se demander est-ce que ça en vaut vraiment la peine. Encore une fois, c'est vrai que de se lancer comme ça dans une carrière d'indépendant, ça peut paraître insouciant. Généralement, c'est souvent les parents qui vont vous faire flipper à ce niveau-là. Moi, je sais que clairement, ma mère a vraiment flippé quand je lui ai annoncé que je voulais me lancer dans l'illustration, alors que je travaillais dans l'animation et que j'avais une situation vraiment stable et un salaire confortable, mais ça me plaisait pas et un jour j'ai décidé de franchir le cap. Si vous êtes dans cette situation-là, que vous vous posez actuellement ces questions, je vous comprends complètement, mais imaginez juste la fierté que vous pourrez ressentir si dans quelques années vous avez percé, vous avez développé une carrière avec des clients qui vous rêvent actuellement et que vous pouvez dire à tout le monde que vous êtes vraiment illustrateur, que c'est votre métier, que vous en vivez. Imaginez un petit peu la fierté que vous pourrez ressentir si vous pouvez dire à toutes les personnes qui auront douté actuellement de vous que vous avez réussi à atteindre votre rêve, que vous avez réussi à atteindre votre objectif. Rien que ça, rien que cette idée, c'est vraiment quelque chose qui veut vous permettre de booster votre motivation et vous pousser à l'action. Donc prenez 2 secondes pour imaginer ça, visualiser la scène. Franchement, ça peut valoir le coup. Alors je vais vous donner mon ressenti personnel par rapport à ça. Mais je pense vraiment que quand on est épanoui sur ce plan-là, quand on fait un métier qu'on aime, sachant qu'on passe une très grande partie de notre temps au travail, faut pas l'oublier, je pense que quand on est épanoui dans son travail, ça nous permet d'être plus sûr de nous, d'avoir plus confiance en nous. La vie vous sourit, c'est vrai que souvent ça permet d'enchaîner les bonnes choses. C'est un petit peu comme si les bonnes ondes attiraient les bonnes ondes. Voilà, je sais pas si vous êtes si vous adhérez à ce genre d'idée, c'est personnel encore une fois, mais c'est ce que je pense vraiment au fond de moi et je voulais vous donner mon point de vue. Alors comme je vous disais, la première étape, ça va être de faire le point sur votre situation. Faire le point sur votre situation, ça veut dire réfléchir à votre situation actuelle, faire le bilan. Alors c'est quelque chose qui, quand on est un peu terre à terre, faire le bilan, ça peut un peu paraître comme, ouais ok, réfléchir, ça va pas m'avancer à grand chose, ce qu'il faut c'est être dans l'action et trouver des solutions concrètes. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que réfléchir, parfois, ça peut paraître superficiel. Et pour rappel, si vous n'êtes pas au courant, je viens de l'île de Léron, donc je peux vous dire que j'étais entourée de gens très pragmatiques pendant toute ma jeunesse. Et du coup, les gens autour de moi avaient tendance à ne pas s'embarrasser de considérations théoriques et plutôt penser au concret et à l'action. Donc si vous êtes entourée de ce genre de personnes autour de vous, c'est pas facile, mais il va falloir faire un petit peu un pas de côté sur ce qu'ils vous disent et vous écouter vous et vous concentrer sur vous et ce dont vous avez vraiment envie et besoin aujourd'hui. Personnellement, moi je fais souvent le bilan sur ma situation. Je prends souvent le temps de réévaluer mes projets, mes envies, mes objectifs pour savoir s'ils correspondent toujours à une espèce de vision que j'ai parce que ça peut évoluer, on peut changer. Par exemple, il y a quelques temps, je voulais vraiment pas partir de Paris. Maintenant, c'est quelque chose que je commence à réévaluer, je commence à changer par rapport à ça. Donc forcément, mes objectifs vont aussi sûrement changer. Donc c'est bien de faire le point régulièrement. Moi je sais que souvent je trouve que le mois de septembre et le mois de janvier sont des moments parfaits pour ça. C'est des moments qui s'y prêtent. Le mois de septembre parce que c'est un petit peu la rentrée des classes. Voilà, moi je suis un petit peu restée scolaire par rapport à ça. Même si j'aime jamais trop aimé l'école, c'est vrai que c'est le mois de septembre, c'est une période que j'aime bien pour pouvoir reprendre des bonnes habitudes et faire le point sur ses objectifs. Je trouve que c'est une période parfaite pour ça. Le mois de janvier, évidemment, aussi, c'est un petit peu la période de la remise à niveau, la remise à zéro, pardon, et c'est un bon moment aussi pour faire le point. Donc à ces moments-là, en général, je me pose des questions du style, est-ce que je suis heureuse actuellement? Est-ce que je me sens épanouie? Et souvent, je réfléchis à où est-ce que j'aimerais être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est tout bête, mais la plupart des gens ne prennent pas le temps de faire ce point régulièrement sur leur situation. Et c'est justement ce qui va les engluer dans leur situation et les empêcher en fait d'aller de l'avant et de concrétiser leurs rêves. Et faire le point en fait finalement sur sa situation à court terme, à moyen terme et à long terme, ça permet tout simplement de ne pas avancer à l'aveugle. Ça permet de savoir vers où on va, d'avoir une vision sur l'avenir et ça permet ensuite de déterminer les différentes étapes qu'on va pouvoir suivre pour atteindre cet objectif sur long terme. Alors si vous avez envie de faire ce bilan, si vous avez envie de faire une petite rétrospective pour déterminer un petit peu ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie aujourd'hui, tous les ans, au mois de janvier, je crée un outil qui s'appelle le kit de l'illustratrice organisée, justement pour vous permettre de faire ce bilan. Voilà, ça fait quelques années déjà que je crée ce kit tous les ans. Je crois que c'est la 3e ou 4e édition, je sais plus. Mais si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à le faire. Il se trouve dans la librairie sur le blog et je vous mettrai aussi le lien dans les notes de cet épisode. Alors quand vous ferez votre bilan, donc que vous commencerez à réfléchir vraiment à ce que vous voulez sur le long terme, sur le moyen terme, c'est également important que vous posiez la question de qu'est-ce que vous ne voulez plus actuellement dans votre vie? Qu'est-ce qui vous rend malheureux ou malheureuse? Est-ce qu'il y a par exemple des choses dans votre boulot que vous ne supportez plus? Moi je sais que par exemple j'ai beaucoup aimé travailler dans certaines productions, quand il y avait une super ambiance, quand il y avait j'avais des collègues vraiment cool et etc. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu d'autres fois où l'ambiance était plutôt macho, voilà, les filles étaient plutôt mises de côté, etc. Donc ça, c'est quelque chose que clairement, je me suis dit non, plus jamais. Voilà, peut-être que vous, de votre côté, vous avez des choses que vous supportez pas dans votre boulot, peut-être que c'est votre boss, peut-être qu'aujourd'hui, vous trouvez que vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez. Donc c'est important de vous poser aussi ces questions-là. Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie? Parce que ça va vous permettre de clarifier vos intentions et de savoir exactement pourquoi vous vous lancez. Et ça va vous permettre aussi de faire taire tous vos doutes à ce sujet. Évidemment, quand on se lance, il y a aussi la question de l'argent. Alors par exemple, combien est-ce que vous avez actuellement mis de côté? Personnellement, avant de quitter votre job, je vous conseillerais d'avoir de quoi vivre pendant au moins 6 mois à 1 an. Mais ça peut aussi passer par revoir la façon dont vous dépensez votre argent au quotidien. Peut-être qu'à ce niveau-là, vous aurez besoin de réévaluer votre façon de dépenser votre argent. Peut-être qu'il y a des choses qui vous paraîtront un petit peu superficielles vis-à-vis de votre projet de vous lancer dans l'illustration. C'est vrai que quand on se lance dans l'illustration, il y a aussi quelques investissements à faire, savoir les logiciels, le matériel. Même si dans un premier temps, il n'y a pas non plus besoin d'investir énormément d'argent, surtout quand on débute, c'est pas la peine de dépenser des fortunes. Mais si vous êtes sérieux dans votre projet d'illustration, c'est important de prioriser vos investissements dans ce projet-là, d'investir dans le but de vous lancer. À vous de voir peut-être dans quel secteur vous pourrez économiser de l'argent pour pouvoir les réinvestir dans votre projet d'illustration. Alors ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire des petits pas concrets que vous allez pouvoir faire dès maintenant. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ça va vous permettre de donner l'élan pour vous lancer, ça va vous permettre d'être dans l'action et de rendre les choses plus excitantes. Alors ce que vous pouvez faire par exemple dès maintenant, si vous êtes vraiment déterminé à devenir illustrateur ou illustratrice, c'est de commencer par vous déclarer. Alors ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire, même si vous avez votre emploi. Vous pouvez tout à fait déclarer votre activité et cumuler votre emploi actuel avec un statut d'artiste-auteur par exemple. Et je vous conseille de le faire le plus tôt possible parce que tout simplement, ça va vous permettre de pouvoir recevoir vos premières commandes. Il y a deux statuts en fait qu'on peut avoir quand on se lance. On peut être soit artiste-auteur, soit micro-entrepreneur. Mais moi, je vous conseille, si votre projet n'est pas complètement abouti, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire dans l'illustration, je vous conseille dans un premier temps d'aller au plus simple et de prendre le statut d'artiste-auteur. Tout simplement parce que ce statut d'artiste-auteur, quand on démarre, il est idéal. Il vous permettra par exemple de répondre à des commandes clients, de vendre vos œuvres originales et d'illustrer pour l'édition. Donc franchement, si vous n'avez pas envie de perdre trop de temps avec la paperasse et réfléchir pendant des heures, des jours, voire des semaines, quel statut vous correspond le mieux, je vous conseille d'aller à l'essentiel, de déclarer votre activité à l'URSSAF et de prendre le statut d'artiste-auteur. Et si vous savez pas du tout de quoi je suis en train de vous parler et que vous êtes déjà en train de flipper, je vous invite à télécharger, si c'est pas encore fait, le guide de démarrage dans l'illustration que vous pourrez trouver sur mon site. Alors je vous redonne le lien. C'est elodie-illustration.net/start-illustration. Je vous remettrai également le lien dans les notes de cet épisode. Dans ce guide, vous pourrez retrouver en détail les étapes à suivre pour déclarer votre activité d'illustrateur ou d'illustratrice. Donc encore une fois, n'attendez pas pour vous déclarer. Sachez que vous ne paierez aucune charge si vous n'avez aucune commande et que vous ne travaillez pas. Donc franchement, ça vaut le coup. C'est juste prendre le temps de faire la démarche. Et une fois que c'est fait pour toujours. Vous n'avez plus à revenir dessus. Alors la deuxième chose que vous pouvez faire comme petit pas qui va vous permettre de rendre les choses plus concrètes, c'est de trouver un pseudo. Votre pseudo qui va ensuite déterminer le nom qui va apparaître sur vos réseaux sociaux, sûrement l'URL de votre site web, de votre portfolio. Et alors sachez que ce pseudo, il ne faut pas non plus en faire une montagne parce que ça n'a rien d'officiel en fait. Vous pouvez tout à fait déclarer votre activité avec votre prénom et votre nom et ensuite choisir un pseudo que vous utiliserez pour votre communication et que vous pourrez même, faut pas le dire, mais vous pourrez même le changer. Alors, je vous conseille pas de le faire, je vous conseille évidemment de trouver le bon pseudo tout de suite, mais c'est pas toujours évident. Moi, personnellement, j'ai un petit peu tâtonné à ce niveau-là. Je suis passée par plusieurs pseudos. J'ai changé 3 fois, je crois. Ouais, mon premier pseudo, c'était, attention, Cuculapraline à mort, c'était Miss Firefly. Firefly, ça veut dire luciole, je sais pas, ça me paraissait vachement spirituel comme pseudo à l'époque. Miss, parce que il y avait une espèce de tendance de Miss quelque chose à l'époque dans les illustrateurs, il y avait Miss LED et Miss Van. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'était une espèce de tendance à l'époque de s'appeler Miss quelque chose, donc voilà, j'ai suivi cette tendance. J'ai vite regretté, après je me suis dit, bah mince, pourquoi prendre un pseudo anglais? En plus, je trouvais que c'était... Ça faisait un petit peu enfantin comme pseudo, donc du coup je me suis dit tiens, je vais tout simplement traduire ce pseudo en français pour avoir un pseudo français parce que je revendique le fait que je sois française et parisienne. Et du coup, j'ai choisi le pseudo, que j'ai pas gardé longtemps pour le coup, Luciole Art. Luciole, parce que Firefly, la traduction de Firefly, Luciole, Art. Mais pourquoi Art? Aucune idée, je ne faisais pas de l'art, je faisais déjà de l'illustration. Donc c'était vraiment pas la bonne idée. Et finalement, j'ai fini par changer pour mon pseudo actuel, quelques temps après, je sais plus combien de temps après, qui est Elodie, tout simplement mon prénom avec juste les trémas sur le E. Donc voilà, ça n'a l'air de rien, mais trouver votre pseudo, ça va vraiment vous permettre de donner cette petite impulsion à votre projet et à faire un petit peu avancer les choses. Et du coup, tout naturellement, une fois que vous aurez votre pseudo, vous pourrez commencer à créer votre logo, le logo que vous pourrez utiliser un petit peu partout dans votre communication, sur votre site, sur vos réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, parmi les choses que vous pouvez commencer à faire le plus tôt possible, c'est bien évidemment de mettre de l'argent de côté. Le plus tôt possible sera le mieux, donc si vous pouvez commencer tout de suite à peut-être vous créer un compte sur lequel vous mettrez un petit peu d'argent tous les mois ou quelque chose comme ça. Alors moi personnellement, je vous conseillerais de mettre de côté pour les 6 prochains mois, voire les 12 mois, donc une année entière d'argent de côté avant d'envisager de vraiment quitter votre boulot actuel. Voilà, donc ça c'est vrai que ça fait partie des choses aussi qu'il faut commencer dès maintenant, si c'est pas déjà fait. Le plus tôt sera le mieux, ça vous évitera de perdre encore plus de temps. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien donner des conseils sous forme d'étapes et de checklists. Donc je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a déjà vu. Alors la première étape, c'était de faire le point sur votre situation. Et la deuxième étape, c'était de faire les choses que vous pouvez faire dès maintenant pour rendre les choses plus concrètes. Alors maintenant, la troisième étape, ça va être de découvrir ce que vous avez envie de faire dans l'illustration. Alors c'est vrai que parmi les personnes qui ont envie de se lancer dans l'illustration, bien souvent l'idée est là, le rêve est là, mais après quand il s'agit de concrétiser l'idée, parfois c'est compliqué de se faire une idée précise, de savoir exactement ce qu'on a envie de faire, pour qui on a envie de travailler, etc. Ça c'est quelque chose sur lesquels vous pouvez commencer déjà à travailler. Alors dans un premier temps, je vous conseillerais de pratiquer déjà, d'ancrer votre pratique du dessin au quotidien parce que la réponse à cette question, elle se trouve sur votre feuille de papier et pas dans votre tête. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, vous dire que tel ou tel marché est peut-être plus viable que d'autres, donc peut-être que ça serait intelligent de me diriger dans cette direction. Ça sert à rien parce qu'au final, c'est pas votre cerveau en fait qui va prendre la décision, c'est vraiment votre coup de crayon, votre passion, votre créativité. Et en fait, votre créativité, votre style, votre patte, en fait, c'est comme si c'était un diamant brut qui, de l'extérieur, pourrait paraître un peu confus, un peu... Et petit à petit, vous allez devoir le tailler pour trouver vraiment ce diamant qui est votre style signature qui va être sous la surface. Alors encore une fois, je vous conseille de pratiquer, dessiner, tester plein de choses, plein de techniques qui vous font envie. Et surtout pas avoir peur parfois de copier certains illustrateurs que vous admirez. Je pense que la copie ça peut être un bon exercice pour assimiler certaines techniques, mais par contre bien sûr ne jamais s'approprier le travail d'une autre personne. Quand on est un jeune illustrateur ou une jeune illustratrice, c'est vrai que ça peut arriver d'être inconsciemment inspiré par un artiste et de recréer sans le vouloir une copie d'une illustration qu'on a vue. Et alors si on la poste sur les réseaux sociaux sans la créditer, ça peut vraiment être problématique, parce qu'il faut pas se leurrer, ce genre de pratique, c'est repéré tout de suite par les professionnels du milieu. Donc faites très attention à ça quand vous copiez des illustrations. Gardez-les pour votre carnet de croquis, gardez-les pour vous. Vous pouvez utiliser la copie pour vous former à des nouvelles techniques, mais surtout ne jamais vous approprier les illustrations de quelqu'un d'autre publiquement. Et aussi, partez du principe que si vous débutez ou si ça fait pas très longtemps que vous illustrez, vous êtes un débutant ou une débutante. Et quand on est débutant, tout simplement, on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les réponses. On doit se chercher, on doit évoluer, et c'est la définition même d'être un débutant. Donc, il faut pas avoir de honte à ça. Tous les illustrateurs sont passés par là. Et c'est sûr que ça peut paraître un petit peu inconfortable comme situation. Ça peut paraître chaotique de l'extérieur, mais vous verrez que dans quelques années, vous repenserez à cette période avec nostalgie, vous repenserez à tout le chemin parcouru, tous les progrès que vous avez fait depuis. On a toujours un peu de tendresse pour nos débuts parce qu'en général, on change et on évolue en tant que personne en même temps que notre travail. Et ça fait toujours un peu drôle de revoir ses premières illustrations. Mais cette période est une étape obligatoire et on est tous passés par là à un moment donné. D'ailleurs, il y a quelques jours, en préparant ce podcast, j'ai voulu aller voir mon tout premier site que j'ai créé en 2004 à la sortie de l'école. Ça fait partie du cursus de l'école, en fait, de créer son site internet. Et je l'ai partagé, en fait, dans mes stories sur Instagram parce que c'était tellement affligeant. Il n'y avait pas beaucoup d'illustrations, mais alors chaque illustration avait un style différent. Le niveau de dessin, je vous raconte pas la catastrophe. Et alors, chaque illustration était inspirée par un illustrateur différent. Donc, on voyait clairement... Enfin, moi, je connais les inspirations que j'avais à l'époque. Je pense qu'on peut pas forcément les reconnaître maintenant parce que c'est moins évident. Et ces illustrateurs-là ont évolué, évidemment, mais... Moi, je le sais, je m'en souviens. Et voilà, tout simplement pour vous dire que 16 ans après, j'ai vachement moins de doutes. Donc, dites-vous que c'est normal et franchement, foncez parce que vous allez voir que petit à petit, ça va vous paraître de moins en moins chaotique et qu'il va se passer quelque chose, un déclic. Tout ça pour vous dire que tous les illustrateurs passent par là, que c'est vraiment un passage obligatoire et que ça fait partie de l'évolution naturelle d'un artiste. Par ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs écoles et plusieurs avis à ce sujet-là, mais trouver un style signature en illustration, c'est essentiel pour percer. Alors un style signature, ce que j'appelle un style signature, c'est vraiment un style propre à vous que les gens peuvent reconnaître, quel que soit le sujet que vous abordez. Et alors ça peut être par plein de choses différentes. Chacun a sa patte, chacun a sa façon de mettre en avant son propre style, sa propre patte. Ça peut être une palette de couleurs, ça peut être un trait, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est essentiel de trouver votre style signature pour percer et attirer l'attention des directeurs artistiques en général. Et une fois que vous aurez trouvé votre style signature, vous allez ensuite pouvoir développer un portfolio qui sera plus cohérent et homogène que si vous alliez dans tous les sens. Et si vous avez suivi le conseil que je vous donnais dans la deuxième étape, c'est-à-dire de déclarer votre activité, vous allez pouvoir commencer à prendre de vraies commandes et du coup, ça va aussi vous aider à comprendre le genre de commandes que vous aimez recevoir ou non. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de se déclarer le plus tôt possible. Alors la quatrième chose pour faire une transition en douceur entre votre boulot et le métier d'illustrateur, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense en priorité, mais pour moi c'est très important aussi, c'est le développement personnel, c'est-à-dire travailler sur ton mental et ton état d'esprit. Alors j'entends déjà les sceptiques parmi vous qui se disent « Attends, encore un truc, le truc à la mode là, le développement personnel c'est bon, c'est pas pour moi ». Je vous entends et je vous comprends. J'étais exactement comme vous il y a encore pas si longtemps que ça. Encore une fois, moi de base je suis oléronaise, donc je peux vous dire que j'ai été entourée toute ma vie de personnes qui ont plutôt les pieds sur terre. Et alors tout ce qui est développement personnel, je peux vous dire qu'on est à milieu de ça ici. Je dis ici parce que j'enregistre ce podcast de l'île d'Oléron de juste à côté de chez mes parents. Donc là, je suis en plein dedans. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous pensez ça, croyez-moi, j'étais exactement comme vous avant. Je pensais que tout ça, c'était des foutaises pour nous vendre des programmes, des trucs et des machins, et des bouquins. Mais en fait, quand j'ai commencé à m'y mettre, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est pas que des bullshit. Vraiment, travailler son état d'esprit, c'est important parce que le mental est hyper important dans l'évolution d'une carrière. Ça, c'est clair et net. Et notamment dès le début d'une carrière en fait, parce que y a plein de personnes, je pense, qui ne se lanceront jamais parce qu'elles sont persuadées que déjà c'est mort, il y a aucune chance, il y a trop de monde sur le marché, elles sont pas assez douées, elles y arriveront pas, de toute façon elles n'ont jamais rien réussi dans leur vie, etc. Il y a des personnes qui pensent ça et qui de base ne vont même pas pouvoir, à cause de ces blocages là, passer l'étape d'après, c'est-à-dire se lancer et essayer en fait. Et c'est vraiment tellement dommage de se bloquer, de s'arrêter à cause de ces idées négatives qui vous pourrissent la vie en fait. Alors qu'en fait, ces idées, elles sont juste dans votre tête. Même si vous rencontrez des échecs dans votre vie d'illustrateur ou d'illustratrice, tant que vous abandonnez pas, c'est pas un échec en fait. Un échec, c'est un échec que quand on se dit « Allez, c'est bon, je jette l'éponge, je passe à autre chose et je change de métier ». Autrement, tout le reste... c'est de l'apprentissage, c'est de l'évolution. Comme on dit déjà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais il n'y a rien de plus vrai que ça. Et quand on a compris en fait que c'est pas parce qu'on n'a pas eu de chance dans sa vie qu'en fait ça va vous suivre éternellement, ça c'est complètement faux. Ça c'est des a priori qu'on nous colle, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Mais en tout cas, tout ça c'est vraiment des idées qui vous polluent l'esprit. Et en fait, c'est important de comprendre que ces idées, elles sont pas là pour vous protéger, mais au contraire, elles vous pourrissent littéralement la vie en fait. Et vraiment, le mental, en fait, c'est comme un muscle qui se travaille. Et moi, personnellement, je sais que j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, donc je vais pouvoir vous en conseiller un ou deux. Alors, par exemple, Tu vas tout déchirer, de Jen Sincero. Alors, je vous conseille celui-ci, parce que c'est une auteure américaine, mais le livre existe en français, donc du coup, si vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais, vous pourrez trouver la version en français. Moi, d'ailleurs, je l'ai acheté en français. En plus, c'est écrit avec une écriture vraiment familière, voilà, pas du tout prout-prout ni rien, c'est vraiment hyper sympa à lire et drôle. Et sinon, je vous conseille aussi Marie Forleo, qui est une américaine, donc là, du coup, ça va être en anglais. Et Rachel Hollis, voilà, je vous mettrai tout ça dans les notes de cet épisode. Voilà, qui sont trois nanas, qui sont vraiment des badass et qui vous boostent comme jamais, quoi. Voilà, si vous avez tendance à douter de vous, à douter de tout en général, et que ça vous bouffe la vie, je vous conseille de commencer par lire des bouquins comme ça. Et franchement, ça va, je vous jure que ça va vous nourrir l'esprit dans le bon sens du terme, et que ça va vous donner plus de courage pour avancer. En plus de ça, alors je voulais vous parler d'une petite chose, c'est que moi je viens d'une famille d'ostréiculteurs. Vous voyez, ça n'a absolument rien à voir avec le métier d'illustration. Voilà, donc des fois on me demande si j'étais pistonnée. Non, non, pas du tout, je ne connaissais rien au métier. Mais malgré tout, je me suis rendu compte que même si mon métier est à des années-lumière de celui de mes parents et de mon frère qui a suivi la même voie que mes parents, qui est aussi ostréiculteur, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit point commun en fait. Même un gros, c'est qu'en fait, on est tous des entrepreneurs, finalement, dans la famille. Et je pense que d'avoir vu nos parents trimer et démarrer de zéro, ça nous a donné à mon frère et à moi l'envie de faire la même chose, c'est-à-dire de se donner les moyens d'y arriver. Et encore ce midi, je parlais avec mon père du métier d'entrepreneur, et en fait, on rigolait en disant que quand on était entrepreneur, il fallait savoir mettre sa fierté de côté, parce que fallait surtout pas être orgueilleux, parce qu'en fait, être orgueilleux, ça sert à rien. Il faut apprendre que l'échec, ça fait partie de l'évolution d'un entrepreneur. Et encore une fois, qu'un échec n'en est qu'un que si on décide d'abandonner pour de bon. Donc vraiment, c'est des petites choses qui ont l'air toutes bêtes, mais qui sont vraiment très importantes. En plus de travailler son état d'esprit, le développement personnel, c'est aussi faire du sport, parce que il y a des études qui ont prouvé que le sport aidait à améliorer l'état d'esprit. Et moi, c'est vrai que depuis que je cours, ça fait... je sais plus depuis combien de temps, mais en tout cas, j'ai fait un marathon en 2019. Oui, c'était en 2019, mon premier marathon, peut-être le dernier. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si vous avez des sportifs autour de vous. Personnellement, dans mon entourage, les personnes que je connais qui font régulièrement du sport, en général, c'est des gens qui sont assez positifs. Et c'est pas du tout des gens pessimistes ou qui voient tout en noir. En général, c'est des gens qui ont vraiment un mental fort. Alors, je sais pas si c'est un hasard, mais je pense pas. Je pense vraiment que le sport, ça a un impact sur le mental et l'humeur en général. Donc voilà, autant entretenir son mental en faisant du sport, en lisant des lectures encourageantes, en écoutant des podcasts, etc., pour renforcer son mental. Alors on est presque arrivé à la fin de mes conseils pour bien faire la transition entre votre boulot et le métier d'illustrateur. Donc je vais vous faire un petit récap. Donc la première chose que je vous ai conseillé de faire, c'est de faire le point sur votre situation. Deuxièmement, de faire les petits pas que vous pouvez faire dès maintenant pour rendre les choses plus concrètes. Troisièmement, de découvrir ce que vous avez envie de faire, de trouver votre style et développer votre portfolio. Et quatrièmement, vous mettre au développement personnel pour développer votre état d'esprit. Et enfin, le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de trouver une communauté et un mentor. Alors ça aussi, c'est pas forcément le conseil auquel on peut penser en premier. Et pourtant, justement, quand on est illustrateur, bien souvent, on est seul chez soi. Bien souvent, on a nos proches ne connaissent pas ce milieu, ils peuvent pas nous conseiller. Et souvent, on peut se sentir démuni face à des questions qu'on pourrait avoir et avoir des retours aussi sur son travail, avoir des exemples de personnes qui ont réussi, avoir finalement se retrouver dans une espèce de cocon d'illustrateur. C'est hyper important, en fait, déjà pour se sentir moins seul, pour pouvoir parler avec des gens qui comprennent votre langage quand vous parlez de votre métier. Et voilà, et c'est aussi hyper important quand on débute de poser vos questions à des personnes qui sont passées exactement par les mêmes phases que vous, etc. Et pour la même raison, trouver un mentor, quelqu'un qui va vous guider en fait à traverser ces différentes étapes de votre début de carrière, ça peut également vous éviter certaines erreurs des débutants et vous permettre d'aller plus rapidement à l'objectif que vous vous êtes fixé. Moi, je sais qu'il y a 2-3 personnes comme ça vers qui je me tourne dès que j'ai des questions. Ça peut être aussi bien dans un groupe Facebook, ça peut être aussi bien à travers une formation ou dans un espace membre du type Patreon ou ce genre de choses où vous pourrez poser vos questions, vous pourrez recevoir des retours, etc. C'est pour ça qu'en premier lieu, j'ai créé un groupe Facebook privé. Donc, c'est la communauté d'Élodie sur Facebook. Et dans ma formation Illustration l'Atelier qui ouvrira ses portes le 2 septembre, j'ai aussi mis en place ce principe de groupe privé Facebook, ce principe de communauté, parce que pour moi c'est vraiment essentiel pour avancer, pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir donner des conseils aux uns aux autres, aussi pour faire du réseau, pour échanger, etc. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est important quand on connaît personne dans notre entourage qui fait ce métier, de trouver sa communauté, son groupe, son cocon, comme j'aime bien l'appeler aussi. Moi-même, je suis membre de plusieurs groupes privés sur Facebook. Ça fait pas longtemps que je m'y suis mis parce que j'avais un peu déserté Facebook, j'avoue, au profit d'Instagram. Mais c'est vrai que je suis revenue sur Facebook pour ces groupes privés qui sont pour moi inestimables. Je suis inscrite à des groupes privés concernant l'illustration, mais aussi concernant l'entrepreneuriat, où je trouve vraiment des conseils tous les jours. Tous les jours, je me rends sur ces groupes. Et voilà, c'est vraiment formidable, je trouve, de trouver une communauté de gens bienveillants. Et encore une fois, vous pouvez trouver plein de conseils inestimables, nouer des liens. Enfin, c'est vraiment formidable pour ça, les groupes. Et voilà, j'ai fait le tour de mes conseils pour vous aider à faire la transition entre votre boulot et le métier d'illustrateur en douceur. Donc je vais vous faire un petit récap. Donc le premier point que j'ai abordé, c'était justement de faire le point sur votre situation. Ensuite, de faire les choses que vous pouvez faire dès maintenant pour rendre les choses plus concrètes. Troisièmement, découvrir ce que vous avez envie de faire. Quatrième chose, utiliser le développement personnel pour renforcer votre état d'esprit. Et cinquième chose, trouver votre communauté et votre mentor. Voilà, j'espère que cet épisode vous aidera à faire la transition entre votre boulot alimentaire et votre rêve d'illustration. Si vous voulez retrouver tous les liens que j'ai évoqués dans l'épisode et les livres aussi, je vous mets tout ça dans les notes. Et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas également de télécharger le guide ultime pour se lancer dans l'illustration à elodie-illustration.net/start-illustration. Vous y trouverez un guide de PDF en plusieurs pages avec des conseils pour se lancer dans l'illustration, dans certaines choses que j'ai évoquées dans cet épisode. Et si vous êtes comme moi du genre à mettre les choses sur le papier pour y voir plus clair, vous trouverez des fiches de travail dans ce guide qui pourront vous être très utiles pour ça. J'ai une dernière petite requête avant de vous quitter, c'est si vous avez aimé ce podcast, c'est de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permettra au podcast de bien démarrer et moi ça m'encouragera à travailler sur de nouveaux sujets et de nouvelles idées pour ce podcast. Et à toi qui écoutes ce podcast et qui rêve de te lancer dans l'illustration, n'oublie pas que nous ne sommes pas en compétition. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché et il y a une place pour toi qui t'attend. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Illustration, le podcast. À bientôt !